Derrière la magie du sport de haut niveau se cache une triste réalité d'athlètes malmenés et abusés. Et pour que ça cesse, il faut en parler.
Avec Jean-Luc Brassard, l'envers de la médaille. Mardi, 20h, sur la chaîne Témoin. Débrouillez dès maintenant.
Point radio.
Pour elle, une question sans réponse n'est pas une réponse. Geneviève Peterson.
Cube Radio.
Bon, on s'en jasait tantôt de cet article du Devoir. Les femmes ont été victimes d'homicides conjugaux en 2020 au Québec seulement. Des annonces qui ont été faites du gouvernement le 3 décembre dernier, un plan sur la violence conjugale mettait de l'avant 14 nouvelles mesures. Où est-ce qu'on en est rendu? Ça fait 2 mois depuis cette annonce-là. On va parler avec Manon Monastès, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Madame Monastès, bonjour.
Bonjour.
Bon, je pense que c'était quand même une très bonne nouvelle là, le 3 décembre dernier, que ces 14 mesures annoncées dans le plan d'action d'Isabelle Charest, un plan d'action qui avait été commandé par François Legault l'an dernier à la suite d'une série d'homicides conjugaux qui ont défrayé la manchette. Est-ce que vous avez des nouvelles de ces mesures-là depuis, Madame Monastès?
Ben écoutez, il y avait des mesures qui étaient quand même entamées sur le fait, bon, il y a des espèces de cellules de crise là qui se réunissent quand il y a une possibilité d'homicide. Alors, plusieurs de ces mesures-là sont quand même entamées, mais on attend toujours de voir quel est le plan de travail pour l'actualisation de ces mesures.
Ben oui, puis les histoires continuent d'arriver. C'est ça qui est désolant. Là, on a une autre histoire de femme, une mère de famille de Coudjoie qui aurait été tuée par son ex-conjoint violent. Deux semaines après qu'il eût été libéré sous caution, la poursuite s'objectait. Il avait brisé ses conditions, ses ordonnances de non-contact à plusieurs reprises. Cette femme-là qui avait 4 enfants. Vous avez parlé de cet événement-là dans les médias, Madame Monastès, comme la chronique d'une mort annoncée.
Oui, tout à fait. Malheureusement, hein, c'est une douzaine de femmes qui meurent au Québec des mains de leur conjoint ou de leur ex-conjoint. Et nous, la Fédération, on avait poussé, ça a pris 10 ans avant qu'un comité d'experts avec le coroner en chef se penche sur, justement, de faire une analyse, de disséquer les homicides. Oui. Pour vraiment voir quels sont les facteurs, puis où est-ce qu'il y a eu des manquements. Et puis, dans le premier rapport qui est sorti aussi, juste avant les fêtes, on voit dans notre rapport qu'il y a quand même, dans les dix situations d'homicide qui ont coûté la vie à 19 personnes, on voit qu'il y a plus que 20 facteurs de risque qui n'ont pas été bien évalués ou pris en compte.
Oui, il y a des signaux. Il y a des signaux qui sont là et qui sont mal compris, ignorés.
Et mal évalués. Okay. On le voit avec la dernière situation. Tout ça, le fait que monsieur ait déjà exercé de la violence, qu'il a été condamné et que là, tout à coup, il est relâché, ça fait partie des facteurs de risque très importants. Alors,
Mais la séparation aussi.
On le voit, les homicides après homicides, il y a quand même des tendances qui continuent, qui se reflètent constamment. Et ça prend vraiment, comme dans le rapport, au niveau des recommandations, ça prend une meilleure connaissance des facteurs de risque. Ça va de la séparation récente, la perte d'emprise sur la victime, le harcèlement, des antécédents de violence, que ce soit à l'intérieur de la famille, des antécédents de violence conjugale. Comme je vous dis, là, on a 20 facteurs qu'on a répertoriés. Qui, dans les 10 situations d'homicide qu'on étudie, qui n'ont pas été pris en compte ou peu en compte, alors et mal évaluées. Ça prend vraiment une formation pour évaluer.
Est-ce qu'on prend assez au sérieux la question de la violence post-séparation?
Ben, je crois qu'il y a beaucoup de travail à faire là-dessus. Justement, c'est un facteur de risque imminent. Quand on parle, je viens de vous le dire, la séparation récente, là, sur les 10 cas qu'on étudie, c'est 8 cas sur 10 où il y avait eu une séparation récente qui s'est soldée par un homicide. C'est la période, quand il y a séparation, c'est la période la plus à risque d'homicide pour une période de 6 mois. C'est une période extrêmement critique après la séparation.
Le fameux bracelet électronique, là, pour empêcher les conjoints ou ex-conjoints violents qui posent un risque de s'approcher de leur victime, mystère public qui évalue en ce moment la faisabilité de tout ça, est-ce que ça pourrait sauver des vies?
Ben écoutez, il y a quand même des expériences en Espagne, en France, mais une des failles du bracelet, c'est que le bracelet, on le met pour des conjoints qui ont été reconnus coupables.
Ouais, c'est
et
ça.
C'est alors tous ceux là qui sont justement en attente qu'il y ait une séparation récente, qui n'ont pas été reconnus coupables ou criminels, ben c'est ceux-là que nous on considère qui devraient porter le bracelet parce que comme je dis,
mais oui, ceux qui font des bris de condition puis qui respectent
exactement,
pas.
Exactement. Et en ce moment, il y a la question que ça se confronte à la Charte des droits, donc parce que c'est quand même on restreint les libertés. Alors, mais pour nous, c'est avant la condamnation, c'est pendant qu'il y a le.
C'est là que c'est dangereux.
Et voilà.
Dernière fois qu'on s'était parlé, Madame Monastis, vous aviez évoqué la hausse de la violence en confinement, violence conjugale. C'est un effet qui était redouté. C'est un effet qui s'est avéré. Pendant la pandémie, on avait peur aussi d'une hausse possible des meurtres conjugaux. Là, on apprenait dans le devoir que cette hausse-là ne s'était pas concrétisée. Puis, tu sais, tout ça pour dire que ça, mais qu'en même temps, l'endroit le plus dangereux pour une femme, souvent, au niveau des homicides, c'est sa propre maison. Ouais. Donc là, on n'a pas une hausse des meurtres conjugaux, on a une hausse de la violence, mais c'est parce que les femmes partent pas. Il y a une raison à ça.
Oui, parce qu'elles sont prises dans le cycle de la violence et le conjoint il exerce un contrôle coercitif. Et puis malheureusement,
non, mais même dans le contexte pandémique, là, tu peux pas t'en aller. C'est ça.
Oui, et puis c'est pour ça qu'il y a eu des campagnes gouvernementales, tout ça, en disant c'est pas parce qu'on est en confinement qu'on doit continuer à subir de la violence. Alors, on a quand même eu, là, bien sûr, notre taux d'occupation, il est très c'est très des montagnes russes, là. Il y a eu des hausses, des baisses, et pour nous, naturellement, c'est représentatif de la difficulté d'entrer en contact avec nos services. Là, ça remonte, mais la question est que le message a été clair aussi quand il y a eu le couvre-feu. C'est pas parce qu'une femme vit de la violence que elle ne doit pas entrer en contact. Ils peuvent maintenant entrer en contact par clavardage, par Facebook, par Twitter, par courriel. Alors, il y a des façons d'entrer en contact qui ne sont pas directes par téléphone, ce qui était presque toujours le cas avant. Et maintenant, elles peuvent le faire. Mais ce qu'on a vu, oui, on n'a pas vu une hausse des homicides, mais ce qu'on a vu chez les femmes qui sont arrivées dans nos maisons d'hébergement, c'est qu'elles ont vécu des violences beaucoup plus sévères. Et les enfants aussi. Il faut pas oublier les enfants qui ont été exposés. Et quand on dit une exposition, ça veut dire pour nous aussi être victime. Alors, on voit là qu'il y a eu des traumatismes beaucoup plus sévères. Et pour nous, c'est d'autant plus inquiétant. Là, il y a quand même une hausse à nouveau des demandes d'hébergement pour nos services externes. Alors, pour nous, c'est toujours bon signe. Mais n'empêche qu'on n'est pas revenu à notre roulement habituel. Et pour nous, ça demeure inquiétant.
Il y a 2 semaines, le ministre de la Justice, Simon Jolet-Barrette, annonçait la création d'un groupe de travail qui examinerait la possibilité de créer ce fameux tribunal spécialisé là, pour traiter les cas d'agression sexuelle et de violence conjugale. Ça fait longtemps qu'on demandait ça. Depuis des années, c'était une demande qui se répétait pour améliorer le traitement des plaintes, améliorer l'accompagnement des victimes aussi. Mais pour le moment, aucun groupe de femmes ne siège sur ce comité.
Oui, on nous a répondu qu'on était en ce moment à évaluer administrativement là comment ça pouvait se faire et que par la suite on serait convoqué et on bon. Serait consulté. Alors on l'espère bien sûr. Je crois que c'est impossible de mettre ce tribunal en place parce qu'il y a quand même des détails à bien ficeler. Alors c'est évident que ce travail-là peut pas se faire sans les groupes terrains qui œuvrent auprès des victimes.
Madame Monastès, merci, qui est directrice générale de la Fédération des maisons d'hébergement pour femmes. Bon, on revenait sur la question de la violence conjugale, bien évidemment. Cet article du Devoir qui nous apprend que 8 femmes sont décédées au moins de leur conjoint en 2020 seulement au Québec. C'est quand même quelque chose. Et vraiment, là, vraiment, j'aimerais beaucoup que la ministre de la Condition féminine, Isabelle Charest, vienne nous parler. Moi, je veux savoir s'en est rendu où. Ce fameux dossier, ces 14 recommandations, ça fait 2 mois. Décliner notre demande, pas disponible de la semaine. Moi, j'estime qu'on est en droit de savoir ce qui se passe avec ce dossier-là. Ça devrait être une priorité. Question de la violence conjugale, ça fait 2 mois. Des femmes meurent.